Vous écoutez On lit pour vous.
Un Montréal en manque de solidarité, un texte de Catherine Marcoux, paru le 27 août 2024 dans Le Devoir. Les organismes communautaires en itinérance à Montréal travaillent jour après jour pour offrir des ressources adaptées aux personnes les plus marginalisées de notre société. Centres de jour, repas chauds, halte fraîcheur partant de canicule et halte chaleur en hiver, travail de rue, services mobiles qui sillonnent nos quartiers, banques alimentaires, centres de consommation supervisés, logements sociaux et communautaires, refuges, la qualité des ressources dans notre métropole est exceptionnelle. Les travailleurs et travailleuses du communautaire se démènent toute l'année pour s'assurer que les droits des personnes qui vivent une situation d'itinérance soient respectés. Comme chacun d'entre nous, ces personnes ont droit à un logement, à la sécurité, ont droit d'avoir accès à des services de santé adaptés, ont droit de jouir de l'espace public et d'exister dans la ville. Les organismes défendent ces droits et soutiennent des milliers de personnes. Ils sont indispensables pour des centaines de ménages dans notre ville et nos quartiers. Alors que d'un côté, les organismes étirent leur capacité au maximum et font preuve d'imagination et de flexibilité pour offrir les meilleures ressources possibles, de l'autre, des déclarations incendiaires alimentent l'intolérance envers les populations en situation d'itinérance et ajoute de l'huile sur le feu du phénomène « pas dans ma cour ». Que des élus s'opposent aux ressources communautaires qui offrent des services indispensables à leurs propres citoyens est inacceptable. L'itinérance visible est en augmentation. C'est une réalité avec laquelle les élus vont devoir composer dans les prochaines années et dans laquelle ils vont devoir naviguer avec précaution. Dévastateur. Alors que les yeux sont tournés vers la situation à la maison Benoît Labre, la même intolérance se reproduit dans plusieurs autres quartiers de Montréal. La fermeture de ces ressources serait dévastatrice pour les personnes déjà marginalisées. Bien sûr que les préoccupations des personnes domiciliées sont valides, importantes et bien réelles. Mais nous ferions bien de ne pas oublier que les personnes qui habitent l'espace public sont aussi membres de nos communautés et ne devraient pas être la cible de propos stigmatisants et déshumanisants de la part de nos représentants politiques. Les déclarations discriminatoires répétées dans les médias alimentent la haine et la violence envers les populations vulnérables et sont complètement irresponsables et dangereuses. C'est quoi la solution, alors? Une baguette magique en itinérance, ça n'existe pas, comme l'a déjà souligné l'administration municipale. L'itinérance, c'est le croisement et la superposition d'enjeux complexes qui doivent être abordés en amont et en urgence, le tout en concertation et en collaboration intersectorielle et intergouvernementale. Compliqué? Oui. Impossible? Non. De belles choses peuvent sortir de nos collaborations, des idées innovantes, des partenariats surprenants, des solutions improbables, des solidarités insoupçonnées et des histoires humaines remplies de succès. Lorsque le municipal, le provincial et le communautaire s'assoient côte à côte et travaillent ensemble pour trouver des pistes de solutions, de beaux projets émergent. On le sait, on l'a déjà fait ensemble. Ce qu'il nous faut de la part des élus à Montréal présentement, ce n'est pas plus de division, c'est plus de solidarité. C'est ce que nous demandons à nos élus et à nos concitoyens et concitoyennes, soyons unis autour de cette table et attaquons-nous aux causes profondes de l'itinérance et non aux personnes qui la vivent. C'était « Un Montréal en manque de solidarité », un texte de Catherine Marcoux, paru le 27 août 2024 dans Le Devoir.
Biberon tueur du 19e siècle découvert à Montréal. Un texte de Dave Noël paru le 10 mai 2024 dans Le Devoir. L'analyse des artefacts exhumés sur le site de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal a permis d'identifier un bouchon appartenant à ce que les médecins de la fin du 19e siècle surnommaient le biberon tueur en raison d'un défaut de conception qui en faisait un nid de bactéries. La découverte de ce morceau de céramique de 4 cm de diamètre est exceptionnelle dans le contexte archéologique québécois. « Je ne sais pas s'il est unique, mais il n'est pas commun », explique Isabelle Had, spécialiste en culture matérielle pour la firme Ethnoscope. Sur le versant extérieur du bouchon, on peut encore lire le patronyme de William Mather, le fabricant des biberons Princess, qui ont été produits en Angleterre entre 1871 et 1890. Les lettres mauves de l'inscription forment un arc de cercle autour du trou par lequel était inséré un tube d'une cinquantaine de centimètres relié à une tétine en caoutchouc. Ce biberon révolutionnaire devait favoriser l'autonomie du nourrisson et l'émancipation de la femme victorienne. Il permettait de libérer un peu la maman, explique Isabelle Had. Les mères étaient fières que leurs bébés se nourrissent tout seuls, comme aujourd'hui au fond. Le nettoyage de ce biberon déposé dans les berceaux était toutefois difficile, ce qui favorisait la prolifération des bactéries. D'autant plus qu'il était généralement lavé sur une base mensuelle. Le lait avait largement le temps de coller aux parois du tube surchauffé par son exposition au soleil. Publicité trompeuse. Breveté en 1869 par l'industriel français Édouard Robert, le biberon à tube permettait d'éviter l'épuisement du nourrisson, comme le souligne à gros traits une affiche publicitaire de 1882, mettant en vedette un bébé bien gras entouré des médailles obtenues par le fabricant. La publicité était très forte, observe Isabelle Had. Si on veut être moderne, on doit acheter ces produits-là. Pour les mamans, c'était parlant. Le biberon gagne des prix. Elle se sentait donc en sécurité. La diffusion du biberon à tube en sol québécois est nébuleuse. Il est difficile d'avoir des données sur les objets de consommation, explique l'historienne Denise Baillargeon dans un entretien avec Le Devoir. Si on en a trouvé un à Montréal, on peut penser qu'il y en avait plusieurs autres. Cette découverte signifie que c'était relativement répandu dans certaines classes de la société. C'est le cas du bouchon Princess qui a été retrouvé dans les latrines d'un professeur de l'Académie Sainte-Marie, Michael Riordan, dont le salaire était un peu plus élevé que celui de ses voisins du Faubourg Amelas. Cet instituteur a occupé le site entre 1881 et 1903 au plus fort de la commercialisation de ce biberon. Il est possible que le bouchon retrouvé par les archéologues ait été jeté dans les latrines à la suite des campagnes de sensibilisation menées par les hygiénistes français de la fin du 19e siècle. Les contemporains prennent alors conscience des dangers du biberon à tube, dont la vente est interdite en France à compter de 1910. On ignore si le bouchon découvert dans les latrines de la maison Riordan contenait encore des bactéries. Pour le savoir, il faudrait faire des analyses spécialisées qui n'ont pas été réalisées, explique Isabelle Had. Hécatombe. Au-delà du biberon tueur, dont la présence demeure anecdotique au Québec, c'est la mauvaise qualité du lait qui explique la mortalité infantile exponentielle de la fin du 19e siècle, qui emporte un bébé sur quatre au sein des familles canadiennes-françaises. Le lait consommé à Montréal était contaminé dès son départ de la ferme par son transport dans des bidons qui n'étaient pas toujours nettoyés adéquatement. Les récipients passaient ensuite de longs moments au soleil sur les quais des gares ferroviaires. On vendait parfois le lait en vrac dans des épiceries de quartier, rappelle Denise Baillargeon. Les femmes plongeaient une louche dans une chaudière pour remplir leur contenant. Alors vous pouvez imaginer toutes les possibilités de contamination. Le contenu du biberon était également infecté par l'eau que les familles pauvres ajoutaient pour allonger le lait. On y mélangeait aussi de la farine, du blanc d'œuf et même du borax acheté en pharmacie. On avait l'impression que certains ingrédients permettaient de purifier le lait, ou du moins de lui conserver ses qualités plus longtemps, explique Denise Baillargeon. La mortalité infantile touchait davantage les bébés des mères canadiennes-françaises qui passaient généralement au biberon après 2 mois d'allaitement. Cette interruption rapide découlerait notamment d'une pudeur religieuse et familiale, les jeunes femmes partageant souvent leur toit avec la belle famille après leur mariage. On ne pouvait pas allaiter facilement, rappelle l'historienne. Il fallait le faire en cachette dans sa chambre, et quand on était mère de famille, c'était compliqué de laisser de jeunes enfants seuls dans d'autres pièces. L'allaitement écourté était raisonnable du point de vue des mères canadiennes-françaises. Elles savaient qu'il fallait allaiter minimalement pour bien partir l'enfant. C'était leur expression pour le « partir dans la vie ». Mais après 2 mois, on se disait que c'était suffisant, explique Mme Baillargeon. C'était un biberon tueur du 19e siècle découvert à Montréal. Un texte de Dave Noël paru le 10 mai 2024 dans Le Devoir.
Le bonheur des uns, le malheur des autres. Un texte de Nathaël Morissette paru le 2 septembre 2024 dans La Presse. Légère hausse des ventes et augmentation de l'achalandage pour les uns, recul du chiffre d'affaires notamment causé par la diminution du nombre d'espaces de stationnement pour les autres. Le soleil n'aura pas brillé de la même façon cet été pour tous les commerçants qui bordent les rues devenues piétonnes pendant la saison chaude. Est-ce vraiment bénéfique pour les ventes? C'est effectivement la question. Ça dépend beaucoup de chaque territoire et de la façon dont le projet a été développé, répond d'emblée Sébastien Ridouin, directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial SDC de Montréal. Ça dépend à qui on parle, ajoute pour sa part le directeur général de la SDC de la Plaza Saint-Hubert, Mike Parent. L'artère connue pour sa marquise et ses boutiques de robes de mariée a été piétonne une bonne partie de l'été. Bien qu'il ait reçu l'appui des commerçants en Assemblée générale, le projet a ensuite été décrié par certains. « Tout n'est pas noir ou blanc », ajoute M. Parente. Les restaurateurs sont ceux qui en bénéficient le plus, croit pour sa part Sébastien Ridouin. « Pour les détaillants, ça peut être variable », reconnaît-il. Après avoir interrogé plusieurs commerçants, la presse a effectivement constaté que la piétonnisation des artères commerciales faisait le bonheur des uns et le malheur des autres. « Pour moi, c'est vital qu'il y ait une rue piétonne », lance sans détour Pierre Thibault, copropriétaire de la taverne Saint-Sacrement et du restaurant Le Pontiac. Les deux établissements sont situés sur l'avenue du Mont-Royal, artère qui en était cet été à sa 5e année de piétonnisation. Pour M. Thibault, pendant cette période, les ventes sont au rendez-vous et ses employés empochent des pourboires intéressants. Voilà une façon pour lui de renflouer ses coffres avant la période creuse de l'hiver. Le touriste qui débarque a toujours un peu plus de budget que la clientèle de quartier. Il faut que ça revienne, ajoute-t-il en prévision de l'été prochain. À la lumière d'un sondage mené à l'été 2023 par l'Observateur pour le compte de la SDC de l'avenue du Mont-Royal, 43% des commerçants ont affirmé que leur chiffre d'affaires était en hausse pendant la piétonnisation. 25% ont répondu que celle-ci n'avait aucun impact, alors que 30% ont confirmé qu'il y avait un effet négatif. Qu'en est-il des détaillants? Lily Fortin, présidente de Tristan, fait partie de la 3e catégorie. Son magasin situé sur la célèbre avenue du Plateau Mont-Royal ne fait pas le plein de ventes et de clients pendant cette période, confirme-t-elle. Malheureusement, pour la business, ce n'est pas bon. C'est peut-être plus un trafic de plaisance, ce n'est pas un trafic d'achat. L'été 2024, dans son magasin du Plateau Mont-Royal, elle a enregistré une diminution de 13% de son achalandage par rapport à 2023. Elle attribue cette baisse non seulement à la piétonnisation, mais également aux travaux qui ont eu cours dans une rue voisine, non loin de sa boutique. De son propre aveu, François Roberge, président-directeur général de La Vie en Rose, reconnaît que la piétonnisation ne fait pas bouger l'aiguille de ses ventes. Celui qui a des magasins dans 4 artères commerciales qui deviennent piétonnes pendant la saison estivale, Saint-Hubert, Wellington, Ontario et Mont-Royal, applaudit néanmoins ces initiatives. « Globalement, j'aime beaucoup ça quand une rue ferme, assure-t-il. Ça donne à la rue un cachet particulier. C'est plus convivial. Oui, c'est vrai que ça ne me donne pas de grosses hausses dans mon chiffre d'affaires, mais au moins, je suis à la même place que l'année passée. » Des vêtements, Anne L'Espérance en a vendu un peu plus pendant la piétonnisation de la Plaza Saint-Hubert. La propriétaire de la boutique de création québécoise, Belle et Rebelle, précise toutefois qu'il s'agit d'une légère croissance. Ayant adopté la Plaza Saint-Hubert il y a 18 ans, Madame L'Espérance estime qu'il faut avoir une vision à long terme. Ce n'est pas la folie. Mes ventes ont augmenté de 4 % ou 5 %, mais à un moment donné, ça prend une vision à long terme. Il y a plus de touristes qui viennent, note-t-elle. La rue est plus attrayante. Il y a des endroits pour s'asseoir, du Wi-Fi gratuit. La plaza est en reconstruction. Ça passe par tous ces détails-là pour la rendre plus agréable. Sur les 400 membres de la SDC de la Plaza Saint-Hubert, une soixantaine seulement a voté lors de l'Assemblée concernant le projet de piétonnisation. Le vote serré en faveur du projet crée des divisions. Anne L'Espérance souligne qu'il y a plein de commerces de destination sur la Plaza, plein de gens qui sont là depuis longtemps. Je compatis avec eux parce que c'est dur de se renouveler. Mais c'est le propre d'être entrepreneur. Si ça n'a pas été bon pour certains cette année et qu'on persiste, peut-être que ça va être bon l'année prochaine, ajoute-t-elle. On est en train de redynamiser le quartier au complet. Ça ne va pas se faire en un été. Le règne de l'automobile. Le principal reproche que font les détaillants opposés à la piétonnisation? Un frein pour les clients qui se rendent habituellement chez eux en voiture. Pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, c'est très difficile d'accès, signale Lily Fortin. Tout le monde revient toujours à l'automobile, réplique Mike Parente de la Plaza Saint-Hubert. On a quand même 3 stations de métro en bordure de notre artère, dont la station Jean Talon. On a 6 lignes d'autobus dans le secteur. On a des pistes cyclables. On est facile d'accès pour les gens qui marchent. Il n'y a aucune artère qui est aussi bien desservie que la Plaza, ajoute Anne L'Espérance. Il y a 3 immenses stationnements qu'on n'a jamais vus pleins. On est presque comme un centre commercial. François Roberge est d'avis que la piétonnisation ne nuit pas à ces commerces qui ont pignon sur rue. J'ai une clientèle qui marche. Ceux qui prennent l'auto, ils vont aller au 10-30, au carrefour Laval. La piétonnisation à Montréal était 2024, source Ville de Montréal. 11 artères piétonnisées, réparties dans 7 arrondissements, 9,4 km de rues réservées aux piétons, 2100 commerces. C'était « Le bonheur des uns, le malheur des autres », un texte de Nathaël Morissette, paru le 2 septembre 2024 dans La Presse.
Quand un déchet humain sème le chaos dans l'écosystème millénaire des grottes de Carlsbad. Un texte de Laurie Henry, paru le 17 septembre 2024 dans Science et Vie. Les grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, sont l'un des joyaux naturels les plus célèbres des États-Unis. Ce réseau de cavernes souterraines attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, fascinés par la beauté spectaculaire des formations rocheuses et l'écosystème délicat qu'elles abritent. Pourtant, un simple sac de Cheetos, négligemment abandonné dans la plus grande chambre de cette grotte, a récemment démontré à quel point cet équilibre fragile peut être perturbé. Cet incident illustre les conséquences parfois sous-estimées de l'impact humain sur la nature. Un geste insignifiant, des conséquences profondes. S'étendant sur plus de 190 km de galeries explorées, les grottes de Carlsbad sont notamment célèbres pour la grande salle. Il s'agit de la plus grande chambre souterraine d'Amérique du Nord. Elle couvre une superficie de plus de 33 000 mètres carrés. Cette cavité fait partie des montagnes Guadalupe, une chaîne montagneuse ancienne dont les grottes sont un témoignage exceptionnel de l'histoire géologique de la région. Un sac de Cheetos tombé accidentellement dans cette grande salle peut sembler insignifiant. Mais ses effets ont été bien plus graves que prévu. Ce geste apparemment anodin, résultat d'une simple inattention, a eu un impact majeur sur l'écosystème complexe de cette cavité souterraine. Pour le visiteur, ce déchet représentait sans doute une erreur mineure, facile à négliger. Cependant, la grotte qui évolue dans un équilibre écologique fragile et isolé a réagi immédiatement. Le National Park Service, NPS, a rapidement signalé l'ampleur des dégâts écologiques engendrés dans un post Facebook. Ce sac de nourriture, en apparence inoffensif, a bouleversé la chaîne alimentaire souterraine. Sous l'effet de l'humidité constante des cavernes, les Cheetos, fabriqués à base de maïs transformé, ont commencé à se dégrader rapidement. Ce processus de décomposition a favorisé le développement d'un micro-environnement favorable à des formes de vie nouvelles et invasives, entre autres des champignons et des micro-organismes. Les insectes cavernicoles, tels que les grillons, les acariens et les araignées, ont profité de cette nouvelle source de nourriture. Ils ont ensuite dispersé les nutriments apportés par les Cheetos dans tout l'écosystème souterrain. Ils ont de fait perturbé l'ordre naturel. Comme l'a précisé le NPS, ce dérèglement a transformé un environnement stable en un lieu de déséquilibre biologique. Les moisissures se sont propagées, affectant les formations minérales et contribuant à la dégradation de l'habitat. Un écosystème temporaire dangereux au sein des grottes de Carlsbad. L'incident du sac de Cheetos a mis en lumière la fragilité des écosystèmes souterrains face à l'introduction d'éléments extérieurs, même en quantité minime. La grotte de Carlsbad, comme beaucoup d'autres environnements fermés, abrite des écosystèmes hautement spécialisés. La grotte représente une formation karstique résultant de millions d'années de processus géologiques. Elle fait partie d'un vaste réseau souterrain sculpté par la dissolution de la roche calcaire, principalement par l'acide sulfurique naturellement présent dans les eaux souterraines. Le climat aride en surface contraste fortement avec l'humidité constante et la biodiversité endémique à l'intérieur des grottes. Elles abritent des espèces spécialisées qui ont évolué dans ces environnements isolés et privés de lumière. Elles se sont développées sur des millénaires en l'absence de toute perturbation humaine. L'introduction de matières organiques transformées, comme les Cheetos, a entraîné une prolifération rapide de moisissures sur les surfaces voisines. Ce micro-environnement a attiré des insectes et favorisé la croissance de micro-organismes non indigènes. Les moisissures ont dégagé des odeurs nauséabondes. Elles ont altéré la qualité de l'air. Les rangers du parc ont dû intervenir de toute urgence pour contenir cette perturbation. En prenant soin de ne pas endommager les formations minérales ou d'autres aspects de cet écosystème fragile, ils ont minutieusement nettoyé les moisissures et retiré les débris introduits. Cette intervention a duré seulement 20 minutes, mais elle s'avérait cruciale pour éviter la propagation des micro-organismes non indigènes. Ils auraient alors pu continuer à perturber l'écosystème local. Comme l'a expliqué un représentant du National Park Service, l'impact d'une action humaine apparemment insignifiante peut être dramatique dans des écosystèmes aussi isolés. Des milieux où chaque élément joue un rôle précis dans le maintien de l'équilibre naturel. Les enseignements d'une négligence humaine. L'incident du sac de Cheetos à Carlsbad rappelle des précédents tragiques comme celui de la grotte de Lascaux en France. Découverte en 1940, cette grotte abrite des peintures rupestres vieilles de 18 000 ans. Elle a attiré un grand nombre de visiteurs dès son ouverture au public. Cependant, la fréquentation massive a rapidement provoqué une augmentation de l'humidité et l'introduction de nouveaux micro-organismes. Des champignons et des lichens ont endommagé les fresques préhistoriques. Pour éviter une dégradation supplémentaire, les autorités ont été contraintes de fermer la grotte en 1963. Cet exemple montre à quel point les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou culturels, sont vulnérables à la présence humaine, même lorsque celle-ci semble inoffensive. La simple introduction de nouveaux éléments peut entraîner des conséquences irréversibles sur ces trésors. De même, le cas de Carlsbad met en lumière l'importance de la vigilance dans les espaces naturels. Chaque visiteur, par ses actions, peut modifier profondément l'écosystème d'un lieu. Les gestes anodins, qu'il s'agisse de laisser tomber un déchet ou de marcher hors des sentiers balisés, peuvent déclencher des réactions en chaîne dévastatrices dans des environnements aussi sensibles. L'incident rappelle que la responsabilité de protéger ces espaces incombe à tous. Comme le précise le National Park Service, il est essentiel que les individus comprennent l'empreinte qu'ils laissent derrière eux, même à travers des gestes qui, à leurs yeux, peuvent sembler insignifiants. Loin d'être un simple accident, cet événement sert de rappel crucial sur l'importance de la conservation proactive. C'était « Quand un déchet humain sème le chaos dans l'écosystème millénaire des grottes de Carlsbad », un texte de Laurie Henry, paru le 17 septembre 2024 dans Science et Vie.